Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre les versets 62 à 64 de la Sainte Sourate Younes. Notre frère Aziz vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ces versets promettent le bonheur aux amis de Dieu, ici-bas, tout comme dans l'au-delà.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Quant aux amis de Dieu, n'est-ce pas? Point de crainte sur eux en vérité, et point ne seront affligés, qui croient et qui restent pieux. Il y a pour eux bonne annonce en cette vie, tout comme en la dernière. Pas de modification aux paroles de Dieu, voilà l'énorme succès.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, très chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran, en ce mardi 19 novembre 2024. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Mes collègues vous proposeront ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. Le martyr du responsable média du Hezbollah renforce la résistance dans la lutte contre Israël, souligne le corps des gardiens de la révolution islamique. Le Hezbollah frappe Tel Aviv avec ses missiles balistiques. Et les agriculteurs français mobilisés contre l'accord de libre-échange Union européenne-Mercosur. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le corps des gardiens de la révolution islamique a fermement condamné l'assassinat du responsable média du Hezbollah libanais, Mohamed Afif, lors d'une frappe israélienne en plein centre de Beyrouth. Dans un communiqué émis le lundi 18 novembre, le CGRI a qualifié cet acte de crime et d'atteinte à la vérité, qui ne parviendra pas à entraver la portée mondiale du message de la résistance et de la détermination du Hezbollah. Ce crime odieux intensifiera indubitablement la haine et la vengeance chez les combattants du Hezbollah, tout en instillant la peur parmi les sionistes. Le CGRI a loué Afif pour son rôle avisé au cours d'une période sensible, notamment pour son soutien au peuple palestinien, au mouvement de résistance Hamas, ainsi que pour avoir exposé au monde entier toute la détermination des combattants de la résistance dans leur lutte contre le régime israélien. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bared Ghalibaf, a également exprimé sa conviction que l'héritage de Mohammad Afif se perpétuerait grâce à l'engagement des médias libres et des penseurs. Le directeur de la radiodiffusion de la République islamique d'Iran, IRIB, Peyman Djebelli, et le directeur du service mondial de l'IRIB, Ahmad Nourouzi, ont présenté leurs condoléances pour le martyr du responsable des relations avec les médias du Hezbollah dans des communiqués séparés. Peyman Djebelli a présenté ses félicitations et ses condoléances pour le martyr de Hajj Mohammad Afif, saluant ce dernier pour avoir mené une lutte médiatique face au régime sioniste et pour avoir assumé la responsabilité de dénoncer les crimes du régime d'occupation, en particulier ceux commis pendant la guerre en cours contre le Liban. Afif a mené une confrontation puissante contre la machine de guerre de l'ennemi, peut-on lire dans le communiqué du PDG de l'IRIB. Pour sa part, le directeur du service extérieur de l'IRIB et PDG de Presse TV, Ahmad Nourouzi, a publié un communiqué en hommage au directeur des médias du Hezbollah assassiné, saluant Mohammad Afif comme la source d'expression ferme et décisive du mouvement de résistance libanais. 18 Palestiniens ont été tués lundi lors des frappes israéliennes dans la bande de Gaza, dont 6 dans des attaques contre des tentes abritant des familles déplacées.
4 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées dans une frappe israélienne sur un campement de tentes dans la zone côtière d'Al-Mawassi, désignée comme « zone humanitaire ». Une frappe contre des abris temporaires dans la ville méridionale de Rafah a également fait 2 morts. Selon les responsables médicaux qui ont fait part de la mort d'un autre Palestinien lors des attaques de drones menées par le régime israélien. Une autre attaque israélienne contre une maison à Beit Daïa, dans le nord de Gaza, a entraîné la mort d'au moins 2 personnes et a blessé plusieurs autres, ont indiqué encore des médecins, ajoutant qu'une frappe contre un immeuble résidentiel de plusieurs étages qui a eu lieu ce dimanche avait fait des dizaines de victimes. Une autre frappe aérienne du régime contre une maison a fait 5 morts et 10 blessés, ont fait savoir les médecins palestiniens, rapportant qu'une autre frappe contre le camp de réfugiés de Nusayrat, dans le centre de l'enclave palestinienne, a coûté la vie à 4 Palestiniens. Abid Laïa Hassan Abou Safia, directeur de l'hôpital Kamal Adwan, a déclaré que cet établissement médical était assiégé par les militaires israéliens, indiquant que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, n'était pas en mesure de livrer des instruments chirurgicaux, des médicaments et de la nourriture. Le moment de résistance libanais et Hezbollah continue d'employer sa stratégie défensive feu pour feu, Beyrouth pour Tel Aviv, face à l'agression meurtrière du régime israélien contre le Liban. Lundi, le Hezbollah ciblait Tel Aviv avec plusieurs frappes, indiquant qu'il ne céderait pas à la politique d'escalade des attaques meurtrières du régime contre les civils au Liban pour faire pression sur la résistance afin qu'elle accepte ses conditions, ont rapporté divers médias de la résistance. Le mouvement a soumis la ville à des salves de missiles balistiques, d'au moins 8 roquettes et de drones, blessant au moins 5 colons, dont un grièvement. Des dégâts d'ordre matériel et humain ont été causés dans la ville de Ramat Gan, à l'est de Tel Aviv, après que 4 explosions ont retenti dans la zone ciblée. En France, les agriculteurs mobilisés contre l'accord de libre-échange Union européenne Mercosur. Les agriculteurs français sont une nouvelle fois mobilisés lundi, moins d'un an après un mouvement de colère inédit dans les campagnes que la perspective d'un accord avec le Mercosur pourrait à nouveau embraser. L'alliance syndicale FNSEA-JA, majoritaire dans le secteur en France, a lancé plus de 80 actions symboliques, prélude à un nouveau cycle de mobilisation. Au Canet des Morts, sud-ouest par exemple, quelques 300 agriculteurs ont déposé de la terre sur la route et planté des croix symbolisant la mort de l'agriculture française qu'ils jugent menacée par l'accord de libre-échange que l'Union européenne négocie avec les pays latino-américains du Mercosur. Près de la frontière belge, des agriculteurs ont contrôlé les poids lourds. Devant la préfecture de Vesoul-Est, 180 agriculteurs ont déposé des panneaux de signalisation de village et déversé 3 bennes remplies de cannes de maïs. Les impatients avaient ressorti les tracteurs des dimanches, se rendant en cortège près de la base aérienne de Villacoublay, près de Paris, d'où s'est envolé Emmanuel Macron pour le G20 de Rio au Brésil. Dimanche, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a prévenu qu'il y aurait une tolérance zéro en cas de blocage durable des routes. Maintenant, après un vaste mouvement de colère dans les campagnes qui avait abouti en janvier à des blocages de sections d'autoroutes dans le pays, les syndicats agricoles appellent à nouveau leurs troupes à manifester, mais en ordre dispersé à l'approche de leurs élections professionnelles qui se tiendront en janvier. Percutés par les mauvaises récoltes et les maladies animales émergentes, ils estiment n'avoir toujours pas récolté les fruits de la colère de l'hiver dernier. Si les taxes sur le carburant agricole avaient été un des ferments de la mobilisation l'an dernier, c'est l'aboutissement du projet d'accord de libre-échange de l'Union européenne avec les pays du Mercosur, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, Bolivie, qui pourrait mettre le feu aux poudres cette année. En dépit de l'opposition de la classe politique comme des acteurs agricoles français, l'Union européenne semble déterminée à signer d'ici la fin de l'année cet accord qui permettra notamment aux pays latino-américains d'écouler plus de bœuf, poulet ou sucre sans droit de douane en Europe. Plusieurs pays européens, dont l'Espagne et l'Allemagne, veulent la conclusion de l'accord qui favoriserait l'exportation de voitures, machines ou produits pharmaceutiques de l'Union européenne. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé lundi un remaniement gouvernemental conservant le premier ministre Mohamed Nadir Larbaoui, selon une déclaration officielle du porte-parole de la présidence algérienne. Plus tôt dans la journée, Larbaoui avait présenté la démission de son cabinet. Toutefois, Tebboune avait renouvelé sa confiance à Larbaoui et l'avait chargé de poursuivre ses fonctions. L'un des changements les plus importants a concerné la nomination du général Saïd Shangri-A, actuel chef d'état-major de l'armée, au poste de ministre délégué à la Défense nationale. Ahmed Attaf a été maintenu au poste de ministre des Affaires étrangères. Le président algérien a également maintenu à leur poste les ministres les plus importants, tels que les ministres de l'énergie, des finances, de l'intérieur et de l'enseignement supérieur. Le remaniement est intervenu après la réélection du président Tebboune dans l'élection présidentielle qui s'est tenue le 7 septembre. D'après la constitution algérienne, le cabinet doit démissionner avant la nomination d'un nouveau gouvernement. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Remède détaille les atrocités et les exécutions perpétrées par le régime israélien dans le nord de Gaza. L'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme, basé à Genève, a fourni ces informations dans un rapport publié lundi, qui montre comment l'armée israélienne soumet les Gazaouis à des meurtres directs, des exécutions extrajudiciaires, une famine de masse, un nettoyage ethnique, sans aucune justification, dans le cadre de sa guerre génocidaire contre la bande côtière, qui dure depuis 13 mois. Les forces du régime sioniste, selon le rapport, ont commis ces crimes en bombardant des maisons avec des résidents à l'intérieur, en commettant des massacres contre des civils déplacés dans des abris et en ciblant des rassemblements et des véhicules. Les forces du régime ont également entrepris de provoquer les plus grands cas de déplacement forcé de l'histoire moderne contre les civils ciblés. Au cours de la période en question, a considérablement intensifié son agression meurtrière contre le nord de Gaza. Elle a également mené sa troisième incursion et l'offensive militaire contre les zones ciblées et commis des atrocités odieuses, dénonce encore l'organisme. La routine combinée de meurtres et de déplacements a été menée dans le but de terroriser les civils, entre autres choses, affirme-t-il. L'organisme a cité Tamam Abdel Maradma, l'un des civils qui a décrit certaines des atrocités commises par les forces israéliennes dans la ville de Beit Laïa. Les conditions se sont aggravées dans la rue Al-Shima à Beit Laïa en raison de l'artillerie lourde et des bombardements aériens. En conséquence, nous avons quitté notre maison, située près de la clinique d'Al-Shima, pour nous installer dans le quartier d'Abbas Kilani, au milieu de la rue Al-Shima, a-t-il dit. Mercredi, les forces d'occupation israéliennes ont commencé à avancer dans la zone où nous nous étions réfugiés. Nous sommes restés coincés dans la maison, et moins de 2 heures plus tard, les forces ont fait exploser la porte et ont pris d'assaut le bâtiment. Lorsque nous sommes descendus au rez-de-chaussée, sur ordre des forces, j'ai trouvé mon beau-frère Khaled étendu sans vie avec 2 balles dans l'abdomen, le sang coulant de lui. Son fils aîné, Ibrahim, 21 ans, avait reçu une balle dans la tête. Je suis resté sous le choc pendant quelques instants avant qu'un soldat ne me menace de bouger ou d'être abattu. Nous étions environ 26 personnes au total. Il a raconté comment sa sœur a été empêchée par les troupes d'invasion de dire au revoir à son mari et à son fils. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Ils les ont exécutés devant moi, alors que Maradma et d'autres essayaient de l'éloigner. Ils les ont tués sans qu'ils aient bougé d'un pouce. » a-t-il ajouté, décrivant la manière dont les victimes ont été exécutées. Cela s'est produit devant les yeux des petits-enfants. 4 garçons et 4 filles qui ont vu leur père et leur frère exécutés sous leurs yeux, a déclaré encore la sœur de Maradma. Selon Ramet, l'armée israélienne empêche depuis 25 jours les équipes de défense civile et médicale d'accéder aux victimes, y compris celles qui ont été ensevelies sous les décombres dans le nord de Gaza. Beit Laïa est devenue une cible spécifique de la campagne depuis 10 jours. Les forces israéliennes ayant poussé quelques 5000 civils dans divers points de rassemblement, ciblant ceux qui tentaient de rentrer chez eux pour récupérer de la nourriture dont ils avaient cruellement besoin et qui n'était pas disponible sur les sites de rassemblement. Des dizaines de personnes qui ont tenté de le faire, ramener de la nourriture, ne sont pas revenues car elles ont été exécutées dans les rues, a déclaré un civil. L'organisme de défense des droits de l'homme a dénoncé la réticence de la communauté internationale à prendre des mesures décisives contre le régime israélien, qui a coûté la vie à plus de 43 900 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, au cours de la guerre génocidaire contre Gaza depuis octobre 2023. L'inaction de la communauté internationale la rend complice de ces crimes et donne à Israël le feu vert pour intensifier son génocide. Cela reflète également un mépris choquant pour la vie et la dignité des Palestiniens, a-t-il encore déploré. Le système international, y compris la Cour pénale internationale, l'Union européenne et divers organismes des Nations unies, ont collectivement échoué à atteindre les objectifs et principes fondamentaux sur lesquels ils ont été fondés. Tout au long de la guerre, les institutions ont démontré un échec honteux à protéger les civils, à mettre un terme au génocide qu'Israël perpètre contre les Palestiniens à Gaza. Un devoir qui est au cœur de leur mission et de leur existence, a averti Remet. L'organisation a fini par appeler à diverses mesures punitives contre le régime israélien, notamment un embargo complet sur les armes et à le tenir responsable de tous ces crimes.
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission. Nous allons évoquer les dernières discussions entre les autorités iraniennes et le directeur général de l'AIEA qui a été à Téhéran et qui a eu des discussions aussi bien avec le chef de l'Agence iranienne de l'énergie atomique, mais également avec le ministre iranien des Affaires étrangères, notamment le ministre iranien des Affaires étrangères, M. Alorchi, a mis en garde le régime israélien contre toute provocation contre les sites nucléaires iraniens, mais également l'Occident, contre tout acte hostile contre les activités pacifiques nucléaires iraniennes qui, selon lui, seraient bien sûr, auraient en fait une riposte iranienne. Une réponse et une riposte iranienne. Nous allons évoquer cette question avec nos deux invités, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder un reportage. On revient tout de suite après.
Le ministre iranien des Affaires étrangères réitérant que l'Iran reste ouvert pour le dialogue a mis en garde les pays occidentaux contre l'adoption de toute résolution anti-Iran lors de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs de l'Agence nucléaire de l'ONU. Abbas Araghchi affirme que la réponse de Téhéran inclurait de nouvelles mesures qui ne leur plairaient certainement pas. Araghchi avertit l'AIEA de faire preuve du professionnalisme, de la neutralité et de ne pas se laisser entraîner dans des domaines politiques politisés, ajoutant que l'Iran poursuivrait sa coopération avec l'agence tant que l'organisme de l'ONU remplisse à son tour ses obligations professionnelles. Le ministre iranien des Affaires étrangères a ajouté que Téhéran avait cessé de remplir ses obligations en vertu de l'accord nucléaire, même de 2015, et cela en réponse au retrait unilatéral des États-Unis de l'accord et au non-respect de l'accord par les pays européens qui ont échoué à récompenser le vide provoqué par la violation du pacte par Washington. Cependant, il a souligné que l'Iran est toujours membre du traité de non-prolifération d'armes nucléaires et qu'il remplirait ses obligations en vertu du TNP. Arachi a exprimé la volonté de l'Iran de négocier sur la question nucléaire, mais a souligné que la fenêtre de la diplomatie restait ouverte si l'autre partie faisait preuve d'une volonté sincère et réelle.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Je vous présente nos deux invités. Il s'agit de Maître André Chamy, juriste international, et Bernard Cornu, géopolitologue. Merci, monsieur, d'être avec nous pour cette émission. Monsieur Cornu, dans un premier temps, j'aimerais avoir votre point de vue en ce qui concerne cette mise en garde de la part des autorités iraniennes, mais notamment des provocations, des agissements et des pressions exercées aussi bien par l'Occident que l'AIEA durant toutes ces années contre les activités nucléaires iraniennes. De quoi ont-ils peur ?
Récemment, l'État israélien et son armée ont menacé d'attaquer les installations nucléaires, sans préciser civiles ou militaires, qui sont en grande partie souterraines, qui sont des activités de recherche et de mise au point, dans le civil essentiellement. Et cela a fait peur à la communauté internationale. C'était sans doute le but des Israéliens et cela a provoqué une sorte de conseil de mise en garde des États-Unis disant qu'il ne fallait bombarder ni les installations pétrolières, dit les installations nucléaires. En précision, il n'y a pas eu vraiment de déclaration officielle. Le problème est ce que dans cette stratégie, l'État israélien essaye toujours de faire des provocations pour déclencher des attaques de l'Iran, afin que s'il y a une guerre qui déclare, qui se soit, le responsable soit clairement ailleurs qu'en Israël. D'où ces provocations, d'où ces assassinats sans revendication parfois, d'où ces coups tordus en Iran même pour essayer de provoquer l'Iran. L'Iran est un grand pays et a une diplomatie forte et veille à toujours montrer que ce qu'il fait, c'est en réaction, en défense des attaques israéliennes, connues ou parfois suspectées. Voilà, donc on est au risque d'une guerre très importante s'il y avait effectivement une escalade au-delà de ce qui a été déjà fait, qui est déjà grave. Et les États-Unis, le monde entier, l'Europe surtout, craint cette escalade. Et le système des Nations Unies n'intervient pas encore assez, à part pour ces interventions de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et qui penche toujours plutôt du côté des Européens et des États-Unis, malgré leur retrait, plutôt que de le côté de la confiance envers l'Iran, qui est l'objectif de la résolution 2231, qui était faite juste après l'accord entre les 4 plus 1, enfin les pays européens et l'Allemagne, les pays du Conseil de sécurité et l'Allemagne, pour avoir un accord sur la supervision et le contrôle du programme nucléaire civil iranien.
Mmh. Merci pour votre explication. Restez en ligne. Maître Chamy, vous, comment interprétez-vous déjà cette mise en garde des autorités iraniennes, mais également les pressions exercées par l'AIEA et l'Occident contre les activités nucléaires iraniennes?
En réalité, ces derniers temps, il y a eu des annonces à travers les médias occidentaux, que l'Iran aurait acquis l'arme nucléaire. Et évidemment, cela a été situé, entre guillemets, dans le temps, au moment où il y a eu un tremblement de terre en Iran, en disant bah, ce tremblement de terre n'en était pas un, c'était un essai nucléaire souterrain. Et ça prouve que, en tout cas, ça prouverait que l'Iran a déjà franchi le seuil qui était prévu sur la, dans le cadre des engagements internationaux. Et on a basculé du nucléaire civil vers le nucléaire militaire. En réalité, ce n'est qu'un prétexte. Parce que ce prétexte-là était utilisé déjà depuis de longues années en disant on ne veut pas que l'Iran ait une énergie nucléaire et une activité nucléaire parce qu'à un moment donné, elle atteindrait le seuil. Maintenant, on dit non seulement que l'Iran a atteint le seuil, mais en même temps, l'Iran a réalisé nos craintes puisque maintenant, il a développé une arme nucléaire. J'ai envie de dire, il importe peu que l'Iran ait ou non développé une arme nucléaire. La seule menace actuellement dans toute la région, c'est l'entité sioniste. L'entité sioniste, jusqu'à preuve du contraire, dispose, selon les sources occidentales, de 250 têtes nucléaires. Or, on est en train de chercher des détails dans le programme nucléaire iranien et dans l'exécution du programme nucléaire iranien, alors que ceux qui étaient engagés dans le cadre de, ce, de cet accord global se sont retirés. Les États-Unis l'ont renié à l'époque de Trump déjà. Ce n'est pas pour autant que Biden l'a repris et l'a signé à nouveau. Les Occidentaux n'ont pas poursuivi l'application de cet accord en, bien entendu, en ouvrant leur économie et leurs relations et leur coopération avec l'Iran et avec les Iraniens. Par conséquent, nous nous sommes aujourd'hui au même endroit, si j'ose dire, qu'à l'époque de Trump quand il a déchiré l'accord. À partir de ce moment-là, il ne faut pas venir demander des mesures de contrôle, même si l'Iran est adhérent à l'accord au traité de non-prolifération, il ne faut pas demander à l'Iran ce que personne ne demande à d'autres, on va dire, pays dotés de l'activité nucléaire et même de l'arme nucléaire. Tout ça, c'est un baratin, si vous me passez le terme, pour justement tenter de préparer d'autres opérations, d'abord médiatiques et puis ensuite peut-être militaires. Nous nous rappelons tous des armes chimiques chez Saddam Hussein et c'était le début d'une guerre contre l'Irak. Nous nous souvenons tous de ce qui a été dit sur le 11 septembre par rapport à l'Afghanistan, c'était le début de la guerre en Afghanistan. Nous nous rappelons toujours des armes chimiques en Syrie pour commencer une opération militaire en Syrie. Et jusqu'à maintenant, les Américains sont toujours là, non pas pour préserver la démocratie comme ils le prétendaient, mais tout simplement pour voler les ressources syriennes. S'ils croient pouvoir la même chose avec l'Iran, ils se trompent totalement. Parce que l'Iran est un pays totalement différent par rapport, en comparaison par rapport aux autres pays que j'ai cités. D'abord, vous avez la puissance militaire qui est totalement différente, vous avez une cohésion qui est totalement différente, mais également, et c'est ça qui a été souligné, me semble-t-il, par le ministre des Affaires étrangères iranien il y a quelques mois, en rappelant que si Israël et peut-être derrière eux, d'autres puissances devaient tenter une opération militaire contre le territoire iranien, eh ben, il a rappelé que le territoire israélien représente quelques dizaines de milliers de kilomètres carrés, alors que le territoire iranien est 30 fois le territoire français. Mais en même temps, même s'il devait y avoir d'aventure, une aventure nucléaire, si j'ose dire, eh bien, bien entendu, la riposte de l'Iran sera foudroyante dans la mesure où un petit territoire tel que le territoire occupé par l'entité sioniste ne durerait pas longtemps devant l'assaut des armes iraniens. Et les Iraniens ont donné une démonstration il y a quelques semaines en attaquant Tel Aviv par, d'après ce qu'on dit, 200 ou 250 missiles qui ne sont pas nucléaires, et ont démontré la puissance de feu qu'ils sont capables de déployer, étant précisé, à mon sens, les têtes utilisées sur ces missiles hypersoniques n'étaient pas les têtes que l'on peut imaginer. On a essayé de donner juste un symbole pour ne pas dire un échantillon, mais et bien entendu, l'Iran est capable de déployer d'autres moyens et d'autres puissances de feu, aussi bien balistiques que peut-être si on l'y obligeait à déployer des têtes nucléaires. Il ne faut pas tenter le diable, il faut maintenant que les États-Unis et l'Occident comprennent qu'on ne peut pas continuer de jouer avec les nerfs des Iraniens parce que tôt ou tard, il y aura une réaction. Cette réaction pourra faire mal et pourra même aboutir tout simplement, je le dis clairement, à la disparition de l'entité sioniste avec toutes ces armes nucléaires qu'elle a, qu'elle considère comme étant sa protection vis-à-vis de tout ennemi vrai ou supposé pour cette entité.
Merci, maître. Monsieur Cornu, est-ce que, à votre avis, comme le dit maître Chami, les États-Unis et l'Occident finiront par comprendre qu'il ne faut pas jouer avec les nerfs de l'Iran, parce qu'en fin de compte, bien sûr, il y aura une riposte très ferme vis-à-vis de toutes ces provocations?
D'abord, je voulais préciser, quand maître Chami a évoqué une attaque sur Tel Aviv, il a dit Tel Aviv pour l'ensemble du territoire israélien. Parce qu'il est très clair que lors de cette attaque assez massive, l'Iran a visé essentiellement des bases militaires, donc et non pas la ville de Tel Aviv, puisque la République islamique, comme le Hezbollah, insiste toujours qu'il essaye de viser des cibles militaires, des centres de sécurité. Ceci est important pour l'éthique de la guerre et l'éthique de des positions respectives des belligérants. Je voudrais signaler aussi que la résolution qui a suivi l'accord sur le nucléaire disait bien qu'un des objectifs, c'était de renforcer la confiance envers l'Iran. Mais l'Iran a bien des raisons aussi de se méfier des organismes internationaux, même s'ils sont sous la tutelle de l'ONU, tels que l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont le directeur général, M. Grossi, a visité l'Iran récemment pour prendre des contacts à haut niveau. Mais je voudrais rappeler encore une fois que l'Office international des armes chimiques et de prévention de l'usage des armes chimiques, aussi sous la tutelle de l'ONU, a été affecté par une histoire dont on a peu parlé, mais d'une infiltration d'agents occidentaux pour manipuler les rapports faits par les experts. Ceci a été dénoncé très clairement l'année dernière dans un rapport très important de près de 142 pages, très documenté, qui montrait comment les rapports des experts techniques de grande expérience, plus de 20 ans d'expérience, ont été manipulés en changeant quelques mots, quelques interprétations, en rajoutant des informations fausses pour faire croire que une année près de Douma, l'armée syrienne aurait utilisé des armes chimiques, alors que les experts avaient mis complètement en doute cela, même prouvé le contraire. Et ils avaient d'ailleurs montré comment il y avait pu avoir des manipulations sur certains documents produits par les mouvements de rébellion soutenus encore à l'époque dans le cadre d'une grande collusion internationale. Donc cette méfiance envers les organismes internationaux qui sont parfois infiltrés, je n'ai pas d'informations sur l'Agence de l'énergie atomique actuellement, mais sur le passé, on sait très bien par un document, un livre, un très gros livre de M. Gareth Porter, qui a montré comment les Israéliens et les services occidentaux avaient manipulé des documents, créé de faux documents pour faire croire que l'Iran entretenait encore un programme nucléaire, militaire, à vocation militaire. Donc tout ceci, il faut s'en méfier et je serais très désolé que la France, que l'Angleterre, continue à tenter de telles manifestations occultes à l'intérieur, des manipulations occultes à l'intérieur des systèmes des Nations Unies.
Merci. Et Maître Chami, à votre avis, durant toutes ces années avec leur pression, les résolutions exercées et adoptées contre l'Iran, contre le programme nucléaire iranien, les différents communiqués contre le programme nucléaire iranien, est-ce que tout ceci a vraiment réussi à freiner le programme et l'activité nucléaire iranien?
La position de l'Iran est claire. C'est l'exercice de sa souveraineté, c'est-à-dire l'Iran a fixé des objectifs, a fixé un programme, et bien entendu, ce programme a voulu être en conformité avec les accords internationaux dans lesquels l'Iran s'était engagé. La question qui se pose est simple. Est-ce que les Occidentaux sont pour l'application de ces traités internationaux ou ils veulent aller au-delà en imposant à l'Iran ce qu'ils n'ont jamais imposé à d'autres puissances? Je prends l'exemple du Pakistan, de l'Inde, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, la communauté internationale, comme on essaye de le dire, veut maintenant changer les règles du jeu? Ça, c'est la première observation qui me paraît frapper du bon sens. Mais il y a également, au-delà de la question de la souveraineté, il y a un engagement moral de la part de l'Iran, dans le sens de dire, moi, l'arme nucléaire ne m'intéresse pas parce que pour moi, c'est une question morale. Parce qu'on considère que toute utilisation d'une arme nucléaire est aboutit indiscutablement à des massacres de masse. Et cela est contraire à la conception de la politique étrangère et même des lois de la guerre du côté de l'Iran. Et M. Cornu a eu raison de rappeler que vous avez l'axe de la résistance qui respecte les règles des lois de la guerre, alors qu'en face, personne ne les respecte. Les États-Unis, l'Occident, l'entité sioniste sont responsables. Là, maintenant, il y a les statistiques, notamment pour les États-Unis, on parle d'une addition de toutes les guerres dans lesquelles ils sont intervenus. On est à 30 millions quand même de personnes victimes des différentes guerres engagées par les États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale. 30 millions, et voire plus, parce qu'en réalité, c'est les chiffres qui ont été additionnés des différents terrains de guerre qui ont été déclenchés par les États-Unis. On ne peut pas en dire autant de l'Iran. L'Iran a toujours été en position défensive et ne faisait aucune opération militaire, sauf quand il est attaqué. Je dirais, cette question de morale a un sens dans ce contexte-là. Mais derrière tout ça, il y a aussi le droit international que l'Iran entend toujours respecter. D'ailleurs, à chaque fois que l'Iran s'est trouvé agressé, d'abord, il s'est référé aux organisations internationales, notamment à l'ONU et notamment au Conseil de sécurité, pour voir quelle serait la réaction. Et à chaque fois, la réponse était simple, pas de réaction. Cela a obligé systématiquement l'Iran à prendre des mesures individuelles, certes, mais ce sont des mesures qui sont prévues par l'article 51 de la Charte de l'ONU. Par conséquent, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui respecte le droit international et vous avez toute une communauté internationale, et notamment les puissants de la communauté internationale, et plus précisément les Occidentaux, à la tête desquels les États-Unis, et accompagnés de leur, complice, pour ne pas dire leur exécutant, l'entité sioniste, qui ne respecte absolument pas le droit international. Ils se croient tout simplement au-dessus de ces règles-là. Dans la mesure où nous avons compris ces règles du jeu, bien entendu, l'Iran a, à un moment donné, le droit de se délier de ses engagements qui sont les siens, parce qu'on ne peut pas continuer, encore une fois, de chercher à avoir des problèmes avec l'Iran et d'essayer de porter atteinte à sa souveraineté, à ses décisions prises par ses instances locales et par ses autorités légitimes, pour imposer des règles qui ne sont pas acceptables ni sur le plan international, ni sur le plan de la souveraineté de ce pays-là. C'est quelque chose que les Occidentaux doivent se fourrer dans le crâne une bonne fois pour toutes, sinon, bien entendu, la situation risquerait de dégénérer, avec non seulement des sanctions économiques réciproques, mais avec, à ce moment-là, des ripostes qui pourraient être graduées et qui pourraient malheureusement aboutir, ce que l'Iran ne souhaite pas, en tout cas pas à ma connaissance, aboutir à une guerre généralisée et peut-être même à une guerre beaucoup plus importante, c'est-à-dire qui s'appelle la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Si c'est ça, si cela les Occidentaux cherchent, eh bien évidemment, ils sont en train d'emprunter le bon chemin.
Merci, merci. À Bernard Cornu, nous avons une minute devant nous. La conclusion est à vous.
Je crois que personne, ni les dirigeants ni les civils, ne cherchent une troisième guerre mondiale. Mais c'est vrai qu'il y a des risques, et ces risques font partie de l'image de propagande pour couvrir l'objectif et la réalité, c'est-à-dire la progression des colons israéliens, de l'armée israélienne dans tous les territoires palestiniens, tels que le voulaient les sionistes dès l'origine, dès 1910 ou 1920. Donc c'est cela sur lequel on doit protester. Et je pense que lors du G20 qui va se tenir au Brésil ces jours-ci, je pense que les grandes puissances du Sud, telles que le Brésil, vont, je pense, un peu, comme on dit, remonter les bretelles des Occidentaux pour leur dire qu'il faut en finir avec le deux poids et deux mesures. Le président Biden a maintenant plus qu'à peine deux mois pour réagir et proposer des avancées dans la solution juste des différents conflits en Ukraine et dans le territoire de la Palestine historique. Et c'est aussi lié au problème du pétrole, au problème du climat. Car on ne peut pas espérer dans le monde assurer la transition énergétique sans politique globale dans le monde sur les énergies fossiles et donc sur leur taxation pour réduire la demande et permettre d'avoir des ressources financières pour le monde réparer et assurer les compensations dues aux millions de victimes de ces guerres du pétrole.
Merci infiniment. Alors Bernard Cornu, géopolitologue, André Chamy, juriste international, est avec nous pour cette émission. Je vous remercie toutes et à tous d'avoir été avec nous pour cette nouvelle émission. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
L'histoire des sciences en Iran. Bienvenue dans un autre numéro de notre émission Histoire de la science en Iran. Nous consacrons cet épisode à la musique dans les portraits de Neishabur. L'article a été rédigé par Ali Asghar Kalantari et paru dans la revue de Téhéran. Après la conquête musulmane de la Perse et avant l'émergence des premiers États iraniens de la période islamique, les arts figuratifs et leurs différentes expressions réalistes de l'époque des arts sassides et des sassanides ont connu une période de récession de plusieurs siècles. Pendant cette longue période de silence, des maîtres potiers et des calligraphes de Neishabur dans la province de Khorasan d'aujourd'hui, ainsi que les artistes d'autres régions iraniennes ont su résister au bouleversement pour préparer progressivement le terrain à un nouvel essor de l'art en Iran. Dans l'art calligraphique, les artistes iraniens ont fait introduire certaines modifications dans le style arabe kufique pour en assurer une évolution riche et profonde vers la perfection. En effet, les plus grands chefs-d'œuvre de la calligraphie kufique de cette époque ont été créés par les maîtres calligraphes des grandes villes iraniennes. L'examen des dessins qui ornent les poteries du 4e et du 5e siècle de l'Égypte découverte à Neishabur nous permet d'y retrouver l'influence de la musique traditionnelle du Khorasan, le maram. De nombreux fours et objets en poterie ont été découverts par des équipes iraniennes et étrangères lors des fouilles archéologiques effectuées à Neishabur. Les villes de Neishabur et de Torbat-e-Jam et Torbat-e-Eydariye sont les principaux foyers de l'art musical dans la région de Khorasan. En effet, pendant cette période historique, la ville de Neishabur était la grande métropole économique et culturelle du Khorasan. Le mot maram, qui dans un premier temps signifiait le lieu où se jouait la musique, a été retenu pour désigner la modalité. Maram signifie littéralement station d'une échelle mélodique en l'occurrence. Il s'agit donc d'une organisation des échelles mélodiques. À la différence du système des gammes majeures et mineures, tel qu'on utilise en Occident, le marome est plus qu'un système d'intervalles. Il organise les intervalles entre chaque note, certes, mais également les cheminements à l'intérieur de cette échelle mondiale, et ce, sur plusieurs octaves. S'il est virtuellement possible d'imaginer une infinité de déclinaisons sur ce principe, quelques dizaines seulement sont régulièrement utilisées et possèdent un nom. Il s'agit là de la deuxième définition du mot marome, qui correspond à la définition d'intervalle et de parcours mélodique singulier, obéissant à des règles mathématiques et esthétiques. Nous pouvons alors désigner chaque système d'intervalle et de parcours par un nom qui lui est propre et s'y réfère. De ce point de vue, les maromes de la région de Khorasan sont des exemples très originaux. Ce système modal codexi du Maghreb à l'Asie centrale et constitue un corpus théorique d'une grande richesse, celui de la musique savante ou classique. Chaque marom possède une couleur, un soulier. Issu d'un tronc musical commun, trois branches représentent aujourd'hui les principales déclinaisons de ce système modal, qui est le marom persan, le marom arabe et le marom ottoman. Chaque marom possède donc une couleur et un sentiment particulier. Les compositions basées sur ces maroms constituent la base de la musique dite savante, urbaine, en opposition aux musiques dites populaires, davantage représentées dans les campagnes. Pour faire une approche comparative entre la musique et les décorations ornant les poteries de la ville de Neshabur, il faudra d'abord définir les méthodes de pincement pour les instruments à cordes, notamment l'instrument traditionnel du Khorasan. Les poteries anciennes de Neshabur peuvent être regroupées en fonction de leur forme, leur ornement et leur couleur. Les poteries simples, les poteries émaillées, les poteries ornées de dessins et les... La plupart des poteries de Neshabur qui sont ornées de calligraphie portent des épigraphes en écriture koufique. Les lignes droites et les formes géométriques de cette écriture lui donnent une grande valeur ornementale. Les lettres prennent ainsi une forme visuelle toute particulière dans leur composition avec les autres lettres. Pour mieux étudier les épigraphes ornant les poteries, il faudra d'abord les situer sur une ligne droite. Nous découvrons ainsi la symétrie et la répétition des signes analogues, ainsi que l'approche adoptée par l'artiste pour montrer la même lettre dans les positions différentes. La variation de ces formes crée l'équilibre de l'œuvre et son esthétique logique est cohérente. Il est à noter que nous pouvons retrouver ce thème dans la musique en général, et dans les marom en particulier. La variation des pincements des cordes du point de vue de leur vitesse et de leur puissance, ce d'autant plus que les maîtres des marom conseillent souvent aux musiciens d'accorder leur instrument en fonction du marom qu'ils choisissent. Dans certains ornements des poteries, les lettres sont représentées par des lignes horizontales et verticales, sans avoir recours aux obliques, qui pourrait créer un rythme différent de celui des symétries linéaires. Il est curieux de savoir que dans la musique traditionnelle de Neshabur, le ghazal est un morceau de musique très simple qui s'inspire pour son rythme de celui de la poésie chantée. Dans les ornements d'un autre groupe de poteries, nous pouvons retrouver les motifs végétaux. Les lettres ne sont pas simples et portent elles aussi des ornements différents. Certains ornements calligraphiques traversent le diamètre de l'ouvrage. La forme des lettres suit un équilibre comparable à celui des morceaux de musique, qui sont joués avec des pincements de cordes et leur frottement entre la pouce et l'index. En d'autres termes, ces ornements visuels sont comparables aux sons décoratifs qui servent à remplir les vides des mélodies principales. Dans une autre forme d'ornement de poterie, les formes sont identiques et plus ou moins à ce que l'on trouve dans le premier groupe, mais les lignes présentent les lettres et sont cette fois-ci plus larges. Les lettres et les mots sont moins nombreux. ce qui permet à l'artiste d'insister plus sur l'heure en se servant des lignes plus larges et plus solides. Cette méthode est comparable au pincement plus fort donné sur les cordes plus solidement tirées. Dans les deux cas, il s'agit de l'intensification des effets visuels et auditifs. Dans les ornements des poteries d'un autre groupe, les ornements calligraphiques traversent le diamètre et l'ouvrage en créant des combinaisons variées. Les lignes rappellent ici un morceau de musique constante à rythme varié et linéaire. Les ornements de ces poteries reproduisent un effet passager qui n'existe pas dans les ornements d'autres groupes de poteries. Ils sont comparables ainsi à l'ouverture de l'œuvre musicale qui introduit l'œuvre sans entrer dans ses détails. Il y a encore d'autres ornements, des ornements qui ressemblent beaucoup à ceux du groupe numéro 1, mais l'extrémité des lignes qui représentent les lettres sont pointues, manière d'exprimer les émotions de l'artiste et de l'énergie intérieure des lettres. Dans les morceaux joués par le dotard, cet effet est reproduit par une technique de pincement dite de marteau. Les ornements calligraphiques des poteries du groupe numéro 5 sont rangés à plusieurs niveaux sur la poterie. Ils sont décorés également par des dessins parallèles qui évoquent les quatrains joués par le dotard. D'abord par le pincement des cordes avec le pouce avant leur développement par des pincements rapides des cordes avec le pouce et l'index. Du point de vue visuel, les ornements secondaires n'éclipsent pas les décorations principales. Tandis que dans l'œuvre musicale aussi, les pincements isolés donnés aux cordes par le pouce ne modifient pas non plus l'ambiance générale du morceau, mais la complètent. Nous avons encore d'autres modes d'ornement. Les motifs ont un aspect plus décoratif dans ce mode et ils sont surtout caractérisés par un mouvement général. Au centre, des formes circulaires accentuent ce mouvement. Dans la musique, cette forme particulière est comparable à une combinaison de tous les types de pincements sur les cordes. Dans un huitième groupe d'ornements, ceux-ci ressemblent beaucoup à ceux du groupe numéro 4, mais les ornements secondaires de ce groupe sont réduits au minimum. L'artiste y grave souvent son nom. Les ornements produisent un effet fluide et passager. Ils sont donc comparables aux morceaux destinés à clôturer l'œuvre musicale.
Thank you.